Écoute voir. Un podcast de Cette Radio consacré à l'audiovisuel.
Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission. Vous écoutez Cette Radio, c'est l'émission Écoute voir, une émission qui est consacrée à l'audiovisuel, tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez sur vos différentes plateformes. On est avec Isaline. Coucou Isaline.
Coucou Dan.
Comment tu vas en ce lundi soir?
Écoute, ça va bien. La semaine commence doucement mais sûrement.
Et on va en profiter un maximum pendant une heure cette émission. On va parler plein de choses évidemment, on reviendra sur les news, les différentes news qui font l'actualité de nos plateformes de streaming. On vous dira ce qu'il y a à voir prochainement sur Netflix qui va sortir cette semaine. Et évidemment, comme chaque semaine, on a débriefé quelque chose ensemble. On a regardé le même contenu qu'on va débriefer. Et c'est une sorte de documentaire, émission, talk show, c'est un peu... voilà.
Ah, je l'aurais pas dit comme documentaire, mais...
Disons documentaire dans le sens où il prend un sujet et il va l'expliquer aux gens.
Ouais, c'est vrai.
Dans ce sens-là, pour moi, c'est un documentaire. Ça s'appelle Patriot Act avec Hassan Minhaj. On en parlera tout à l'heure. Nos recommandations de la semaine aussi. À chaque fois, on vous donne une petite astuce, quelque chose à voir ou à écouter. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine?
Alors, de mon côté, on va partir en Espagne pour une série Netflix qui vient de Madrid.
C'est
Les Demoiselles du Téléphone.
Ah, on fait dans le vintage.
Oui, bah oui, mais je trouve que cette série n'a pas eu le succès qu'elle mérite. Alors, je voulais en parler.
Eh ben, on fait dans le vintage aussi avec ma recommandation. C'est un film Netflix, ça s'appelle La Grande Classe. On en parlera tout à l'heure. Et notre sondage aussi, dans un court instant. Le sondage cette semaine, quel est-il?
On vous en parle depuis plusieurs semaines maintenant. Apple TV Plus est arrivé.
Oh, c'est beau.
C'est beau, hein. Alors, la semaine passée, on s'interrogeait sur le fait d'avoir plusieurs abonnements pour ces plateformes de streaming. Globalement, vous n'étiez pas super intéressé par le fait de mettre de l'argent dans plusieurs abos. Alors, on sait que Netflix est bien installé et qu'on a presque tous soit un compte, soit un pote chez qui on va regarder Netflix. Mais alors, qu'en est-il d'Apple TV+? C'est notre question du jour. Avez-vous un compte Apple TV+? Pour répondre à la question, ça se passe dans notre story Instagram. Le compte, c'est 7RADIO et on vous donnera notre avis en fin d'émission.
Écoute voir.
C'est l'heure des news et c'est fait, Disney Plus est enfin disponible.
Et ce, depuis maintenant une petite semaine, 6 jours pour être exact, les personnes vivant aux États-Unis, au Canada et apparemment aux Pays-Bas ont vu les portes de Disney Plus s'ouvrir. Alors on va parvenir sur le catalogue qui est très riche et qui est proposé par Disney Plus. La plateforme qui veut concurrencer Netflix a parié sur un investissement $1 milliard pour sa première année. Ça fait beaucoup d'argent, hein. Mais l'argent, ça fait pas tout. Et dans ce monde terriblement imparfait, le lancement de la plateforme a été aussi le témoin de beaucoup de problèmes techniques. Le jour J, c'est plus de 7000 signalements qui ont été faits concernant des problèmes techniques sur la plateforme, notamment des problèmes pour les utilisateurs de se connecter sur les smart TV. Des problèmes survenus en raison d'un trop grand nombre d'utilisateurs connectés en même temps, selon un communiqué de Disney. Donc, est-ce qu'ils n'avaient pas vu assez gros pour leur infrastructure? Ou alors, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qu'on n'attendait pas? Eh bien, il faut attendre les chiffres officiels pour le savoir.
Mais ils n'avaient pas pré-enregistré les gens?
Mais il y avait une partie pré-enregistrée, mais même quand t'as un serveur et que t'as, je sais pas, 1 million de personnes qui se connectent en même temps, si t'achètes pas un serveur qui peut tenir 2 millions de personnes, bah tu crashes.
C'est impardonnable. Mais pour concurrencer tout ça, Netflix a fait pas mal d'annonces cette semaine, non?
Et ouais, dans l'idée de rappeler aux gens que Netflix c'est la plateforme de leur série préférée, ils ont fait plusieurs communiqués, par exemple pour teaser l'arrivée en 2020 de la saison 2 de Sex Education.
Ah, yes.
Et ouais, pour rappel, on suivait les aventures d'Otis, 16 ans, fils d'une conseillère sexuelle, alors que lui-même il avait des petits soucis à ce niveau-là. Et il va, à l'aide de Maeve, devenir lui-même conseiller sexuel pour les autres lycéens dans le but d'approcher son crush, Ola. Dans la saison 2, Otis va devoir apprendre à contrôler ses tout nouveaux désirs et pulsions pour pouvoir avancer dans sa relation avec Ola, alors que ses rapports avec Maeve sont très tendus. Parallèlement, le lycée est touché par une épidémie de chlamydia. Alors, précisant les besoins d'une meilleure éducation sexuelle dans le lycée et dans la ville, il y a aussi beaucoup de nouveaux personnages qui vont venir puisqu'il y a des nouveaux dans le lycée. C'est comme ça qu'ils le vendent. Parmi les séries Netflix, que Netflix ne veut pas nous faire oublier, il y a aussi ton chouchou Isaline, The Witcher.
Yes.
Donc la première saison, elle arrive sur Netflix le 20 décembre. Eh bien Netflix, dans le but de nous hyper au maximum avec la maison de production, ont déjà validé la deuxième saison.
Oui.
Le tournage commence en 2020 pour une sortie en 2021. La deuxième saison, comme la première, comportera 8 épisodes et les contrats des acteurs principaux ont été déjà reconduits, donc on verra les mêmes têtes.
Ah, c'est déjà pas mal. Et des nouvelles d'Apple pour terminer?
On parle d'Apple TV+, dans notre sondage, on en parle aussi dans l'actu, puisqu'Apple envisage de regrouper les différents services lancés cette année sous une seule offre unique dès l'année prochaine. Apple TV+, pour les films et les séries, Apple Music pour la musique, Apple News+, pour les magazines du kiosque en ligne, et Apple Arcade pour les jeux vidéo. Tout ça, ils ont lancé cette année, c'est des services différents qu'on paye à chaque fois à 5-6 francs. Et comme le fait actuellement Amazon avec son son service Prime qui permet d'accéder à peu près tout sur la plateforme. Donc Amazon Prime, ça te permet d'avoir la livraison en un jour, d'avoir Amazon Vidéo, d'avoir tout ce que propose Amazon en abonnement d'un coup. Eh bien, Apple devrait lancer un service similaire, Apple Prime, ou on ne sait pas comment il s'appelait, où tu aurais, après avoir payé une charge mensuelle, accès à tous les services qu'on a cités, et peut-être même un peu plus, puisque la rumeur dit même que l'achat de matériel, donc un iPhone ou une box Apple TV, pourrait être dans l'offre. Donc tu payes, je sais pas, 20 francs par mois, t'as tous les services en ligne et t'as une Apple TV chaque année. Ce qui est aussi sympa.
Oui, on y croit. Hein.
C'est possible, en tout cas, ils travaillent beaucoup. Le but, ça fait monter le nombre d'abonnements sur les différentes plateformes et services, typiquement Apple News Plus, qui est très en dessous, personne ne connaît, et c'est le but, c'est... Puisqu'Apple Music est plus populaire, ça va gonfler les chiffres d'Apple News. Et surtout, ça va vendre du matos, des iPhones, des box. Et ça, c'est leur objectif final. Mais pour en apprendre plus, il faudra attendre 2020. C'est l'heure d'en savoir un peu plus sur nos goûts en termes de séries, de podcasts, de tout ce qui se regarde et qui s'écoute. C'est nos recommandations. On commence avec toi, Isa.
Alors, c'est pas tout nouveau, puisqu'on en est déjà à la 4e saison, mais ma reco de la semaine, elle est pour la série espagnole Les Demoiselles du Téléphone. J'ai découvert cette série en Espagne et là-bas, c'était un immense succès. C'était la première série espagnole de Netflix disponible à l'international. La série regroupe la plupart des jeunes acteurs les plus trendy de la péninsule ibérique. Alors oui, Dan, je sais, on les voit partout.
Mais vraiment,
c'est vrai.
C'est tout le temps les mêmes. C'est comme à l'Allemagne, hein. Il y a 4 acteurs et ils sont dans toutes les séries.
Mais du coup, à mon retour en Suisse, j'étais super étonnée de voir que la série n'avait pas du tout le même succès.
En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne, mais elle l'était encore moins pour les femmes. Nous n'étions pas libres, mais nous rêvions de l'être.
Alors de quoi ça nous parle cette série? C'est l'histoire de 4 femmes, Lydia, Angeles, Carlota et Maria, qui se battent pour le droit des femmes et pour leur indépendance. On est dans les années 20, à Madrid, en Espagne donc. Lydia, qui est l'héroïne de la série, c'est une jeune femme qui s'est enfuie avec un ami quand elle était petite pour venir à Madrid. Et à son arrivée, elle a perdu son ami et s'est débrouillée toute seule pendant toutes ces années. Angeles, c'est la femme qui est sous l'emprise de son mari. Carlota, elle se bat contre son père qui ne lui laisse aucune liberté. Et finalement, Maria, c'est la petite fille de province qui débarque à Madrid et qui découvre la vie dans la grande ville.
Un peu religieuse, ouais.
Exactement. Alors, vous me direz, et comment est-ce que ces 4 femmes vont être liées? Eh bien, c'est grâce à la compagnie de téléphone de Madrid, puisqu'elles vont toutes les 4 y travailler en tant qu'opératrices.
Donc ça, c'est comme à l'ancienne, les filles qui changeaient les câbles pour pouvoir relier les téléphones.
Exactement. Donc Dan, sous ma pression, je crois que tu avais regardé une partie de la série.
Ouais, j'ai abandonné au bout d'un moment. Ça.
Voilà. En tout cas, on était assez d'accord pour dire qu'il y a 2 choses agaçantes dans cette série. Je préfère vous avertir. La première, c'est la musique, qui va pas du tout, mais vraiment pas du tout avec l'ambiance de la série. C'est-à-dire qu'on va vous mettre, grosso modo, du Billie Eilish dans une boîte des années 20.
Mais c'est ça.
J'abuse un peu, mais vraiment à peine.
Ouais, ouais.
La deuxième chose agaçante dans cette série, c'est que, règle de Netflix oblige, les séries sont très courtes, donc tout va 1000 fois trop vite. Dans les séries espagnoles, on a tendance à nous faire un peu languir dans le jeu du « je t'aime, moi non plus ». Là, c'est pareil, sauf que c'est un rythme où si tu faisais ça dans la vraie vie, t'irais directement à l'asile.
C'est vrai, on en avait discuté quand on débriefait ça entre nous, avant même que l'émission Écoute Voir existe. C'était vraiment le truc, c'est un feu de l'amour, mais version, c'est le, t'sais, les romans qui sont condensés là.
Ouais,
c'est le profil d'une œuvre. C'est le profil d'une œuvre des Feux de l'amour. C'est-à-dire que c'est « Oh Jack, je t'aime !»« Ah non, je peux pas, je dois partir !» Et c'est dans le même épisode, il y a 12 retournements de situation.
Exact,
ça va
ouais.
Très 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 vite.
Mais sinon, cette série est, à mon humble avis, un petit bijou. C'est espagnol et ça change un peu, du coup c'est pas ces séries américaines, etc. Si vous le pouvez, moi je vous conseille franchement de la regarder en VO, quitte à mettre les sous-titres en français si vous parlez pas espagnol, mais ça ajoutera un petit je ne sais quoi à l'ambiance de la série, et c'est aussi que le doublage en français est atroce.
De toute manière, il faut regarder en VO, mais j'avoue que quand, tu vois, c'est pas Angeles, quoi, c'est Andrales, c'est plus sympa.
Exactement, exactement. Donc c'est ma reco de la semaine, ça s'appelle Les Demoiselles du Téléphone, et vous pourrez même binge-watcher les 4 saisons qui sont disponibles dès maintenant sur Netflix.
Écoute Voir, un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.
Tout à l'heure, je vous partageais ma reco de la semaine. Dan, quelle est la tienne ?
Eh bien moi, cette semaine, c'est un film Netflix, La Grande Classe. C'est sorti à la fin de cet été sur Netflix. Alors je sais, là aussi, c'est pas tout nouveau. J'ai dû regarder dans mon historique cette semaine pour vous trouver une recommandation. Mais c'est un film très sympa qui se regarde très facilement puisqu'il fait un peu moins d'une heure et demie. C'est l'histoire de deux meilleurs amis d'enfance qui étaient souffre-douleurs à l'époque du collège, qui réussissent à monter à Paris, réussir leur vie professionnelle. Ils décident de retourner dans leur ville natale pour assister au bal des anciens, pour prouver à ceux qui les avaient emmerdés que eux, ils ont réussi, alors que les autres sont toujours des bouseux à la campagne.
On s'est battu toute notre vie.
Mais attention, elle va partir celle-là, hein !
Pour prouver à la terre entière qu'on n'était pas des tocards.
Vous êtes prêts pour la contre-attaque ?
C'est une comédie française, l'histoire est pas très originale, faut se l'avouer, on peut imaginer assez facilement comment le film va se terminer, quoi qu'il y a une sorte de petit twist à la fin, même s'il est ridicule, ça permet de faire « Ah bah ça, je l'avais pas vu venir !» Mais n'empêche, c'est un bon divertissement. Au casting, vous retrouverez Joséphine Drey, Jérôme Niel, Ludovic, Caroline Anglade et Nicolas Berneau, des visages qui vont vous être familiers, bien que les noms pas forcément, puisque c'est simplement une partie de l'équipe de Studio Bagel. Tu te souviens, la chaîne YouTube qui faisait des sketchs sur Internet il y a quelques années.
Ouais.
Eh bien c'est eux et du coup c'est plutôt frais.
Et toi sinon ça va ? Ça a pas été trop dur l'après-collège parce que t'as l'air doublé hein. C'est dur ça.
Ouais bah du coup ils m'ont mis en CAP carrosserie.
CAP carrosserie, ah c'est mal hein.
Ah non, non.
Ah si si si.
Ah bah non.
Bah si.
Bah non. J'ai commencé à bosser à 16 ans. À 18 ans je gagnais déjà 2 SMIC.
Bah moi tu vois, maintenant j'habite à Paris et j'ai créé ma boîte de solutions digitales.
Putain, y a pas de maillot.
Là on vient de lever plus de 5 millions auprès du 3e plus gros business angel européen. Et j'ai également...
C'est du thon ou c'est du saumon ça ?
C'est du thon Hervé. Écoute-moi, j'ai aussi acheté un petit 75 mètres carrés dans le Marais.
75 mètres carrés ?
Ouais, 75 mètres carrés, ouais.
Bah putain.
Force de travail et d'acharnement.
C'est la taille de votre terrasse. Ouais mais c'est vrai que vous les parisiens, vous aimez bien vivre dans des cages à lapins, ça j'ai jamais compris moi. Il y a 4 ans avec Véro, on y est allé avec les mômes pour aller chez Mickey. Putain mais c'est chiant, hein, ça pue avec des cons qui font la gueule. Ah non mais moi ça me fait pas du tout rêver.
Il y a ce petit combat, campagne-ville, c'est assez sympa. La réalisation est fraîche, le jeu d'acteur aussi. Pour faire un parallèle, on n'est pas au niveau du film du dimanche soir sur TF1, tu vois, la comédie un peu franchouillarde. On est quand même au-dessus, mais c'est typiquement le genre de film que tu peux lancer quand t'as un date Netflix and chill. Le genre de film que tu peux regarder en deux fois, quoi, tu vois. Tu commences, après tu fais une pause, puis après tu regardes encore. Ça s'appelle La Grande Classe, c'est disponible sur Netflix depuis cet été et je vous le recommande. C'est l'heure du débrief et cette semaine, j'ai décidé de vous faire découvrir et qu'on regarde ensemble avec Isalid, Matriot Act avec Hassan Minhaj. Il est tellement fou ce générique. À chaque fois, il met les poils.
Au début, je détestais. Et plus je l'écoute, plus je l'apprécie.
Ah, mais je zappe jamais. Puis j'ai l'impression d'être dans une manifestation. C'est dingue, ou dans un stade de foot. Alors tout d'abord, parlons d'Hassan Minhaj. C'est un comédien américain d'origine indienne. Alors pourquoi on le précise ? Parce que c'est important. Il fait beaucoup de vannes sur sa culture, sur le fait que ses parents soient très stricts. Il y a beaucoup d'Indiens aussi dans son public. C'est un peu son univers. Et il l'utilise. C'est pour ça que je le précise. Il a démarré sa carrière en faisant du stand-up. Il a présenté le repas des correspondants à la Maison Blanche en 2010. C'est le repas où les humoristes ils viennent un peu pour roaster, pour rire et faire des blagues sur le président et son gouvernement. Il a fait plusieurs apparitions au cinéma, il a aussi travaillé sur l'émission The Daily Show avant de créer en 2018 sa propre émission sur Netflix, Patriot Act. C'est une émission de 21 à 28 minutes, c'est un peu le schéma et la mise en forme standard d'une émission TV. Hein. C'est pour ça que 26 minutes s'appelle 26 minutes. C'est les émissions font 26 minutes ou alors 56 minutes pour mettre les pubs. À la manière d'un stand-up, Hassan Minhaj va décortiquer un sujet avec des sources, des interviews, des points de vue contradictoires, donc un vrai travail de journaliste, mais avec des vannes pour faire passer la pilule. Patriot Act a reçu un Emmy Awards, un Peabody Awards et 2 Webby Awards. Leur objectif, c'est explorer la culture moderne et le paysage politique avec profondeur et sincérité, c'est ce qu'ils disent. Mais contrairement au Late Show américain, Patriot Act, c'est moins une une émission d'actualité, on ne reprend pas des sujets purement d'actualité. On ne va pas parler des élections au Canada, mais on va parler du système politique canadien et des deux faces que peuvent avoir le gouvernement de Trudeau. C'est plus large que juste une émission d'actualité, donc. Parmi les sujets, il y en a beaucoup. L'Arabie Saoudite, le pétrole, la marque suprême, tu sais, des vêtements des fuckboys, la censure en Chine, le prix de la drogue, la musique hip-hop et le streaming, la crise des opioïdes aux États-Unis et dans la dernière saison qui a démarré la semaine dernière, la santé mentale et la politique immigratoire de Trump. Les épisodes sortent tous les dimanches, c'est découpé en saisons, on en est à la cinquième, elle vient de démarrer la cinquième saison. Et comme ce n'est pas des sujets d'actualité, même si c'est d'importance journalistique, tu peux très bien aller regarder un épisode sorti il y a un an, comme si c'était une série. Ça sera toujours juste, toujours aussi intéressant. Isaline, toi t'en as pensé quoi ?
Alors au départ, honnêtement, j'ai trouvé un peu lourd. Dans le sens que j'avais vraiment la sensation que tout devait faire rire. Il essayait de faire rire à chacune de ses phrases.
Mais c'est vraiment en fait 26 minutes de stand-up. Hein.
Oui, oui. Mais finalement, j'ai regardé 2-3 épisodes et je trouve que c'est une façon intéressante de faire passer un message qui est important. Mm-hmm. Tu prendrais le même contenu journalistique sans les vannes.
Je pense que un journal.
Tu zappes au bout de la moitié. Ouais, là, ouais. Il arrive à te garder en haleine parce qu'il te fait rire.
Faut imaginer, moi je l'imagine comme ça, c'est comme si c'était un temps présent beaucoup plus light en termes de contenu, parce que c'est 26 minutes, avec des vannes, mélangé à une sorte de mauvaise langue, mieux produit.
Ouais.
Du coup, t'as vraiment cette sorte de grosse machine d'actualité et de journalisme avec une grosse machine de l'humour qui se mélange et t'as une sorte d'émission hybride.
Et c'est ça qui est intéressant. Après, sur le long terme, honnêtement, je pense que j'arriverai pas à regarder. Parce que je trouve que ça devient révoltant plus qu'autre chose.
Le contenu, tu dis,
ouais. En fait, c'est tellement énorme ce dont il parle que ça finit par t'enlever presque tout le fun. Tu te dis presque, mais c'est pas possible, il faut qu'il fasse quelque chose.
Mais c'est un peu sa marque de fabrique, c'est de mettre en avant des sujets tellement absurdes. Typiquement, le sujet sur la santé mentale. Il dit qu'il y a 83% des Américains qui en souffrent et peut-être les trois quarts qui ne vont même pas chez le médecin alors qu'ils sont assurés pour le faire. Et c'est vrai que c'est sa marque de fabrique de sortir des sujets comme ça que tu dis mais non c'est pas possible, le monde est si con.
Ouais ouais. Après au niveau du format 20, combien tu as dit 21
entre 21 et 28 ouais. Ça dépend des épisodes.
Alors moi j'en ai relevé un qui faisait 25 minutes, honnêtement je l'ai trouvé presque trop long.
Ok.
Certes tu peux arrêter quand tu veux, c'est Netflix, mais c'est vrai qu'on est habitué à une petite pause de pub, ça ferait du bien.
Ok, moi je trouve pas.
Okay.
Moi j'avais l'impression que c'est 25 minutes fun et je les enchaîne en fait, quand je les regarde trois à la fois. Donc vraiment...
Ah ouais quand même.
Non, je passe une heure et demie en fait, c'est comme si c'était un film et il y a trois sujets. Pour moi dans ma tête c'est vraiment 25 minutes, une pub, genre la coupure de Netflix quand tu passes à l'épisode d'après, 25 minutes encore une,
okay.
Et 25 minutes et en fait c'est une sorte de film, enfin comme une émission de trois sujets.
Mais moi, je me rends compte que j'arrive plus à regarder autant, ouais. Mais même une série de, même 20 minutes, ça me paraît une éternité aujourd'hui.
Ok.
Ça, c'est dingue. Mais enfin, de manière générale, franchement, ça a été une jolie découverte et je pense que ponctuellement, je vais regarder quelques épisodes.
Ok. Moi, j'ai bien aimé, c'est le côté sucré-salé, tu sais, humour sérieux et des vannes vraiment pipi-caca des fois. Là, il arrive à bien faire un ping-pong avec les deux. Le problème pour moi, c'est que les références, c'est les références américaines.
Oui.
Et elles sont souvent hyper dures à comprendre. On arrive à comprendre les références sur l'humour de la famille indienne et tout ça, parce qu'on a les mêmes clichés par rapport au cinéma. Mais les vannes sur la publicité américaine, sur la culture américaine, souvent on l'a pas. Et des fois, tu passes à côté de phrases entières parce que tu n'as juste pas la référence. Le choix des sujets est super, j'adore.
Oui.
Parce qu'autant des fois, tu vois, quand c'est la politique immigratoire de Trump, tu cliques sur le lien, tu dis « Oh, ça va être chiant !» Et en fait, il arrive à rendre ça intéressant.
C'est clair.
Et quand c'est le hip-hop et comment ça a façonné le streaming musical, là tu te dis ok c'est un sujet pour moi et il est tout autant intéressant que l'autre, donc il arrive vraiment à rendre les sujets intéressants. Et j'aime aussi beaucoup les métaphores et les interviews qu'il fait dans ses émissions complètement barrées, c'est-à-dire qu'il a dans l'épisode sur la politique de Trudeau, il fait vraiment une interview avec Trudeau, donc
ça,
il est dans un bureau.
Ça c'est dingue quand même, tu te rends compte, il a voir le premier ministre canadien quand même.
Il a ce genre d'accès et après il fait une interview, il lui dit je suis fan de vous, vous êtes le meilleur, c'est trop bien, parce que Trudeau il a une très bonne image. Et après il lui fait par contre faites quoi avec le pétrole. Et il le met vraiment face à sa merde. Et Trudeau, il répond poliment, comme font tous les politiques, quoi. Mais j'aime bien le côté, j'en ai rien à foutre de qui j'interview, si c'est quelqu'un de très connu, très important ou pas. Et il va les faire jouer à des vannes. Par exemple, l'épisode sur la politique immigratoire de Trump, il a l'un des plus grands activistes qui est sur place à la frontière mexicaine pour aider les gens avec des avocats, etc. et il lui fait faire une fausse interview à la Fox où il le contredit et tout ça, donc c'est assez rigolo. Il a très peu de... Il sait bien rire de lui-même et des différents formats. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il a, dans un épisode, donc il est sur Netflix, c'est diffusé que sur Netflix, et il rigole de ça en fait. Il parlait du streaming musical, et il parlait de Spotify, etc., que c'était le futur du truc. Puis à chaque fois, il faisait « Mais Netflix, c'est mieux, mais Netflix, c'est mieux ». Donc il rigole par rapport à ça et je trouve ça très drôle, je trouve ça très intelligent. Et c'est surtout une manière d'en apprendre plus sur des sujets très larges, donc avoir une bonne culture générale en regardant un épisode de 25 minutes.
Et il est très bon aussi dans son écriture au niveau humoristique, dans le sens qu'il va te faire des vannes au départ, qu'il va réussir à reprendre à la fin. Quasi à chaque épisode que j'ai vu, il faisait ça et honnêtement, je trouve... C'est une, ouais, une c'est jolie façon de te garder, en fait.
Et l'épisode est bien écrit, bien fait. Même dans les vannes débiles, elles te font réfléchir finalement parce qu'il y a un fond. Et tout, il est derrière un mur d'écran qui sont hyper bien mises en place avec des infographies intelligentes. Et c'est pas... Alors, comme on le voit dans cette infographie, lui, il dit il y a 5 personnes sur 7. Bah, sur l'écran, il y a 7 personnes, il y en a 2 qui tombent. Enfin, c'est très dynamique et c'est très... C'est très intelligent, très bien fait, très
du
moderne.
Coup, ça m'a droit à faire regarder son spectacle comique. Tu...
J'ai pas encore fait ça.
Ah, il est vraiment chouette. Okay. Dans le même délire, mais vraiment chouette.
Donc il s'appelle Hassan Minhaj. Son émission, c'est Patriot Act. Ça sort tous les dimanches sur Netflix.
Écoute voir.
Dans cette émission, on vous donne le calendrier de ce qui va sortir cette semaine sur Netflix. Et cette semaine sortira une mini-série qui va faire beaucoup de bruit chez nos voisins français. C'est Grégory.
Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier. La dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone « Le gamin est dans la Vologne ».
La famille Villemain, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres, c'est ce corbeau.
C'est-à-dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit Grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie.
Oui, ce corbeau, il l'a tué.
Alors on se souvient tous de l'affaire du petit Grégory, cet enfant enlevé puis tué le jour même, dont le corps a été retrouvé dans la soirée. Une affaire qui a été un véritable choc pour la France entière et qui l'est même encore aujourd'hui puisque l'affaire n'est toujours pas résolue. C'est une mini-série de 5 épisodes qui a été produite par Netflix sur cette affaire, encore non résolue donc. Une mini-série truffée de témoignages, de documents audiovisuels inédits, bref, une mini-série documentaire qui va faire beaucoup parler d'elle. Elle arrive mercredi sur Netflix et j'en suis sûr, ça en parlera dans les différents téléjournaux français. Une série de Noël maintenant, quoique presque pas de Noël, enfin bref, vous verrez, ça arrive sur Netflix mercredi, c'est Les Secrets de Noël, une série allemande en trois parties qui raconte les retrouvailles de Noël, les histoires de famille et surtout ses secrets, bref, une série qui colle bien à la saison et qui est peut-être un peu moins gnangnan de ce qu'on a l'habitude de voir sur M6 l'après-midi pendant le mois de décembre.
Tu te souviens de tout ?
Ne pas faire manger ta mère après minuit, ta sœur n'aime pas l'ail.
Arrête, c'est sérieux.
Elle est si terrible que ça, ta famille ?
On a beau essayer de garder sa famille à distance. Quand vient Noël, la famille se réunit. Tu te souviens ? Manger, boire et se prêter au jeu des faux-semblants.
Lara et moi, on va se marier.
J'ai eu un copain pendant un an.
Il vivait dans sa voiture comme le précédent ?
Tout ce que je voulais, c'était passer Noël tranquille avec vous.
Maman, tu restes ici.
Ça suffit.
On devrait peut-être aller les aider.
Tu m'as abandonné.
Allez, on trinque, c'est Noël.
Là où je vous dis que c'est peut-être pas vraiment une série de Noël, c'est que les secrets de cette famille-là sont vraiment violents.
Ok.
Donc il faudra découvrir ça, ça s'appelle Les Secrets de Noël. Cette semaine, c'est aussi une série d'horreur psychologique de 8 épisodes qui fait son arrivée, direction les Pays-Bas, et j'espère que vous parlez néerlandais.
Heb je je nooit afgevraagd hoe het kan? Dat zo'n klein landje als Nederland zo rijk en machtig is geworden.
Machtig.
Ah mais moi je me suis mis au néerlandais il y a peu alors.
Bah c'est parfait, tu vas pouvoir le perfectionner. Sinon pour les autres, il y a les sous-titres pour suivre l'histoire de Rosa et Jacob, deux amis qui vivent dans une société étudiante secrète et surtout très riche. Mais ils vont gentiment se rendre compte qu'en fait ils sont entrés dans un lieu démoniaque construit sur de lourds secrets du passé des Pays-Bas, un endroit où le pouvoir vient à un prix terrible. Ça s'appelle Arès, ça a l'air très intéressant et surtout très flippant. On termine ces quelques nouveautés avec l'arrivée sur Netflix vendredi du film Terminator Genesis.
Toute ma vie, j'ai préparé mon fils à diriger l'humanité dans le combat contre les machines.
Cette nuit, nous allons reprendre notre monde!
Mais il y a une chose à laquelle je ne pouvais pas le préparer.
Les machines ont voulu fausser la donne. Elles ont envoyé un Terminator à l'époque d'avant la guerre pour tuer ma mère.
Je vais y aller.
Laisse-moi la sauver.
Kyle Reese?
Vous savez qui je suis?
Ça fait plus de 10 ans qu'on prépare ton arrivée.
Qui on? Un Terminator.
Ravi de vous rencontrer.
Je lui apprends à s'intégrer. Je sais, il y a du boulot.
Terminator, Genesis, Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, des explosions, des courses-poursuites, des voyages dans le temps. Bref, un Terminator à voir sur Netflix dès vendredi. Moi, ça m'intéresse pas tant.
Moi, je vais juste regarder pour écouter Arnold Schwarzenegger parler en anglais avec l'accent.
Avec l'accent du robot.
Oh mon Dieu. Non, mais avec son accent... Ah mince, il est de quelle nationalité, lui, déjà?
Il est allemand.
Non, il est pas allemand, il est
dans
autrichien.
Dans la série, je sais pas, j'ai
il
jamais...
autrichien.
Oui, autrichien, ouais.
Ah mon Dieu.
Ça parle allemand.
C'est l'accent le plus drôle du monde, je trouve.
Parmi toutes ces sorties prochainement sur Netflix, c'est quoi que tu te cales dans ton agenda?
Alors, ce qui va le plus m'intéresser, c'est le docu sur Grégory.
Évidemment.
Ouais. Ça reprend un peu le même principe que le docu qu'ils avaient fait sur Maddy, je sais plus comment là.
Maddy, je sais plus son nom de famille non plus.
Ce genre de truc, anglaise, ça me prend aux tripes, mon Dieu, ça va me mettre dans tous mes états. Mais...
Parmi les premières reviews qui sont sorties, parce qu'évidemment, les gros médias français ont déjà pu le voir, il y avait ce commentaire qui était assez intéressant. On est super loin parce que des documentaires sur Grégory, il y en a eu 116 000 déjà produits sur D8, sur C8, sur CNews, sur machin. Là, on est sur un niveau de production et d'enquête qui est assez affolant, ils disent.
Okay.
Donc, on va vraiment loin.
Moi qui déteste les téléjournaux, etc., ça me permettra de rattraper toutes les infos que j'ai pas eues.
Donc, l'affaire sur le petit Grégory, c'est la série Grégory. Ça sort mercredi sur Netflix et apparemment, c'est ce qu'on vous recommande parmi les sorties de cette semaine. Avant de clore cette émission, on revient sur notre sondage, Isaline.
Apple TV Plus est arrivé, alors on vous demande, avez-vous un compte? Pour répondre à ça, ça se passe sur notre story Instagram.
Et toi, Isa, tu te situes où?
Alors, c'est là où on va pas être d'accord, toi et moi, puisque en soi, moi, j'ai rien contre Apple TV+. Je pense même que je pourrais m'ouvrir un compte, puisque j'ai entendu beaucoup de bien des séries comme The Morning Show avec Jennifer Aniston ou la série C avec Jason Momoa.
Surtout celle-là, hein.
Jason Momoa. Ouais. Sauf que, ben, j'aime pas les produits Apple, donc j'en ai aucun, donc je peux pas avoir de compte Apple TV+.
Ouais, ça, c'est la contrainte, hein, on le répète. Si tu veux pouvoir voir Apple TV+, il faut avoir au moins un produit Apple, notamment une Apple TV, ou en tout cas un iPhone pour avoir l'application. Il n'y a pas de navigateur, en tout cas pour le moment, qui te permet de regarder Apple TV+. C'est la contrainte.
Exact. Du coup, c'est frustrant. Alors, je n'ai pas de compte.
Mais est-ce que tu as essayé de les pirater? J'ai même pas regardé si elles étaient dispo.
J'ai ni le temps ni les connaissances pour faire ça, je crois. Et toi, Dan, du coup
Moi, c'est un peu l'inverse. Je suis entouré de produits Apple dans ma vie au quotidien. Du coup, j'ai Apple TV+, puisque j'avais acheté un iPhone, donc j'ai un an gratuit. Et j'aime beaucoup. Alors, il y a deux choses. L'interface d'Apple TV+ est nulle. Mais nul.
Ah ouais.
Alors Netflix, c'est bien fait, t'as le bouton skipper le générique, t'as le bouton passer à l'épisode suivant dès que la série s'arrête, en fait, avant les crédits. Avec Apple, déjà, tu tapes tous les crédits et c'est à la fin qu'il te lance l'épisode d'après. Donc, c'est un peu chiant et tu peux pas, tu vois, tu dois faire avancer. Donc, tu fais 5 secondes jusqu'à la fin du générique. Il n'y a pas de bouton skipper le générique. Après, ils sont bien faits. C'est des jolis génériques. Donc, ça vaut le coup de les regarder. Puis surtout, le problème, c'est l'application Apple TV. C'est le merdier. Parce qu'Apple TV, évidemment, il loue des films et des séries comme à l'ancienne. Tu vois, tu payes 4 francs, tu as un film pendant 24 heures.
Quoi?
Bah oui.
Attends, tu payes un abonnement et après tu payes...
Non, justement, c'est ça le bordel. C'est que c'est différent. T'avais comme sur iTunes, tu pouvais louer un film ou une série. Tu te souviens de ça? Eh bien, ça existe toujours. C'est sur l'application Apple TV. Mais t'as Apple TV+, qui est l'abonnement qui te permet d'avoir les séries exclusives via de l'abonnement. Mais c'est le merdier. C'est-à-dire que t'ouvres l'application, il te propose Space Jam, enfin tu vois, tous les films que tu pourrais louer. Et au milieu, t'as les séries, donc faut un peu les trouver. C'est pas comme Netflix où tu cliques n'importe où et tu pourrais le voir. Leur but, évidemment, c'est que tu te dises « Ah, j'ai trop envie de voir ce film. Ah, c'est pas dans l'abonnement, je paye quand même. » Mais c'est chiant, parce que quand t'as envie juste de savoir ce qu'il y a sur Apple TV+, tu t'arraches les cheveux. Il faut savoir ce qu'il y a pour pouvoir trouver les séries. Ça, c'est super mal fait. Après, en dehors de l'interface, qui est un choc, parce qu'Apple, a priori, ils savent faire des interfaces. Un site internet, ça devrait pas être compliqué pour eux à coder. Les séries sont phénoménales, mais vraiment, moi, je trouve... notamment The Morning Show, c'est un mini-film à chaque fois. C'est des épisodes d'une heure, c'est bien fait, les acteurs, le casting est énorme, c'est très bien fait, c'est produit, on voit que c'est vraiment la qualité d'un film en fait. Donc c'est vraiment bien fait. Après, sur le contenu de la saison, enfin de l'épisode, tu peux te dire bon, c'est un peu voilà, c'est très américanisé, les émotions c'est on ou off, c'est très fort ou très
okay.
je suis en haut de la gloire ou je suis tout en bas du ravin, mais voilà, la série si aussi elle est très bien faite avec Jason Momoa. Et après, j'ai un dernier point négatif que je trouve avec Apple TV, c'est que t'as 3 épisodes quand c'est sorti que j'ai dévoré évidemment, donc j'ai passé 3 heures pour The Morning Show, 3 heures pour Si, donc 6 heures le premier week-end, et après ils te sortent un épisode par semaine.
Ok.
Et ça fait 3 semaines qu'il y a des nouveaux épisodes, et ça fait 3 semaines que je regarde pas. Parce que t'as pas ce côté binge-watching, tu vois.
Ah.
J'ai pas eu de rappel, tu vois, Apple TV+, si t'envoies pas un truc, hey, il y a un nouvel épisode, regarde-le maintenant, et puis en faisant le rappel à un moment intéressant, tu vois, okay. le samedi soir, non. S'ils le font, ils vont te le faire vendredi après-midi quand t'es au boulot. C'est un petit rappel, parce que vraiment, j'ai plus le réflexe de regarder.
Okay.
J'ai regardé que les 3 premiers épisodes de ces 2 séries, alors que maintenant, il y en a 6.
Dan, prends-toi en main.
Ouais, il faut que je me concentre, non, mon Dieu. Et puis après, le problème aussi avec Apple TV+, et c'est le dernier, c'est que personne ou peu de monde l'a et connaît et regarde.
Bah, voilà.
Ce qui est intéressant avec Netflix, c'est quand tu vas parler de You, que tu vas toutes les séries actuelles sur Netflix, tu peux en parler avec à peu près n'importe qui. Quelqu'un l'aura forcément déjà vu, entendu parler, etc. Avec Apple TV+, tu commences ta conversation en expliquant ce que c'est Apple TV+, en expliquant quelles sont les séries, et finalement en disant « il faudrait que tu regardes ». Mais ouais. T'as pas la conversation genre « ah, t'as vu le dernier épisode ».
Tu vas aux États-Unis, c'est vraiment pas le même délire.
Mais je sais pas, moi j'habite Lausanne, tu vois.
Ouais, mais oui, mais d'accord, mais non, je t'assure, aux États-Unis.
Donc oui, je suis content d'Apple TV+, des séries que j'ai regardées. Il y a des points d'amélioration, mais en même temps, le service, il a moins d'un mois. Voilà. On peut pas non plus leur exiger.
Si on se rappelle comment était Netflix à ses débuts.
Mon Dieu.
Hein, voilà.
Vraiment, t'as raison. Donc on attend votre avis, vous, les auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram, 7 Radio, S, le chiffre 7, R-A-D-I-O, et à voter dans notre story sur notre sondage. Et c'est terminé pour cette émission. Une de plus à notre actif, c'était l'émission numéro 7. Et on vous remercie de l'avoir écouté. Merci Isaline d'avoir préparé cette émission avec moi.
Merci Dan.
On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'une heure, une nouvelle émission d'écoute voir où on écoute, où on regarde ce qui s'écoute et ce qui se regarde sur vos différentes plateformes. Avec les news évidemment, cette émission, vous la retrouvez en podcast sur toutes les plateformes qui vous permettent d'écouter des podcasts, mais aussi sur notre site 7radio.ch. Avant de se quitter, on remercie
Tim
pour la direction des programme et
Antoine
pour la production des jingles. C'est comme si on s'était préparé.
Oh.
Merci encore et à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Écoute voir un podcast de 7 Radio consacré à l'audiovisuel.